Il est 6h, ici à Paris, 4h en temps universel, vous êtes sur Radio France Internationale. Pour une nouvelle édition du journal, présentée par Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Et ces nouvelles manifestations attendues aujourd'hui dans plusieurs grandes villes ukrainiennes.
Comme celle d'hier soir et comme celle d'hier matin aussi, la colère grandit après le limogeage du populaire ministre de la Défense. La Chine coupable du plus gros piratage de données électorales de l'histoire. L'accusation est signée Donald Trump. Le président américain s'est exprimé à la télévision et il a remis en doute l'état du système électoral dans son pays. Le tout à 3 mois d'élections de mi-mandat qui s'annoncent compliquées pour lui et le camp républicain. Dans ce journal, on va aussi parler de la rencontre Sonkodio Maïfaï prévue aujourd'hui à Dakar, du dernier conseil franco-allemand de l'ère Macron. Ce sera tout à l'heure près de Cologne. Je rectifie, on va parler de la rencontre Macky Sall du Maïfaï à Dakar et puis aussi de l'ambassade de France au Cameroun qui se justifie après le durcissement des mesures d'obtention de visa pour les étudiants camerounais désireux de venir faire leur scolarité dans des écoles privées françaises. Il sait parfaitement ce dont l'Ukraine a besoin, dit Volodymyr Zelensky, sûr de son choix. Le président a désigné hier soir son nouveau ministre de la Défense en la personne de Yevgeny Khmara, un responsable qui a fait carrière dans les services de sécurité ukrainiens et qui est donc chargé d'assurer l'intérim à la tête de ce ministère après le limogeage de Mykhailo Fedorov. Lui ne sera resté en poste que 6 mois, assez pour acquérir une certaine popularité au sein de la population, mais assez aussi pour se fâcher avec une partie de la hiérarchie militaire. Et il l'a d'ailleurs dit hier lors d'une conférence de presse. Pour lui, son départ est dû à un conflit avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Sirski, plus traditionnel face à un Fedorov réformateur. Et pour les manifestants qui se sont réunis dans plusieurs grandes villes ukrainiennes hier, le matin puis le soir, eh bien le choix est vite fait. Ils préfèrent la méthode Fedorov. Reportage à Kiev de Lucas Lazo.
Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace. Face à lui, Sirski, 60 ans, représente la vieille école militaire soviétique. Pour Olga, jeune mère de famille, rencontrée à la nuit tombée sous les fenêtres du Parlement ukrainien, le choix est évident.
Avec la gestion proposée par Fedorov, l'objectif, c'est la victoire. Ce que propose Sirski, en revanche, c'est obsolète.
Andrei travaille dans l'industrie de la défense. Pour lui, Fedorov a surtout imposé une nouvelle philosophie de la guerre.
Il essayait de faire évoluer la guerre vers quelque chose de beaucoup plus numérique, qui repose moins directement sur les hommes, afin de réduire le nombre de victimes et de soldats tués.
Autrement dit, plus de drones, moins de pertes humaines, une doctrine qui porterait ses fruits.
Nous avons l'impression d'être actuellement à un tournant avec ce qui se passe en Crimée, les frappes ukrainiennes en profondeur et les chaînes logistiques russes qui sont coupées. S'il part, nous risquons de revenir aux anciennes manières de faire la guerre.
20 ans à peine et déjà vétéran, Selki, blessé au combat, salue quant à lui l'action de Fedorov pour endiguer la corruption.
Les Ukrainiens ne tolèrent plus la corruption. Pourtant, elle continue de prospérer dans l'armée, notamment au ministère de la Défense. Alors voir M. Fedorov s'attaquer vraiment au problème et mettre une pression maximale pour y mettre fin, pour moi qui suis jeune, c'est très encourageant.
Alors que le couvre-feu approche, ces manifestants se promettent de revenir dès le lendemain pour obtenir le retour de Fedorov. Luc Elazo, Kiev, RFI.
Et de nouvelles frappes russes cette nuit dans le sud de l'Ukraine, à Odessa. 2 morts et 8 blessés selon le maire adjoint. Des immeubles résidentiels, un édifice religieux ou encore une école maternelle ont été pris pour cible. Des explosions entendues cette nuit à Doha, au Qatar. L'armée du Koweït dit, elle, faire face à des attaques de drones et de missiles, tandis que les sirènes d'alerte ont également retenti à Bahreïn. Depuis plusieurs nuits, le scénario se répète. L'Iran frappe les pays de la région, tout en étant frappé par l'armée américaine, qui l'a d'ailleurs à nouveau fait cette nuit, notamment dans le sud de la République islamique, près du détroit d'Ormuz. Selon la télévision d'État iranienne, deux ponts ont notamment été visés dans la région de Bandakamir, ainsi qu'une gare à Bandar Abbas et l'aéroport d'Iranchar. Et c'était justement pour tenter de justifier cette guerre en Iran que Donald Trump s'était exprimé à la télévision américaine le 1er avril dernier. Eh bien, il a reparlé hier soir, mais cette fois pour parler du système électoral dans son pays, 3 mois avant les élections de mi-mandat qui s'annoncent délicates pour les républicains. Et Donald Trump est inquiet, alors pas directement du résultat, mais plutôt du système électoral en lui-même, car visiblement, il n'a pas confiance. Nous ne pourrons plus jamais assister à une nouvelle élection volée, a-t-il dit, référence à la présidentielle de 2020, qu'il a perdue face à Joe Biden, dénonçant depuis à de multiples reprises, mais sans jamais en apporter la moindre preuve, des cas de fraude et d'irrégularité. Il craint donc que l'histoire, en tout cas selon sa version à lui, ne se répète, et il accuse la Chine d'être responsable du plus gros piratage de données électorales jamais observé dans le pays. Il annonce qu'il va déclassifier des documents montrant, je cite, des vulnérabilités choquantes dans le système électoral américain. Pour Romuald Sciorra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, Donald Trump est ici fidèle à lui-même. Il continue de semer le doute sur des élections avant même qu'elles aient lieu.
Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie. Il y a une dizaine de jours, lors du 4 juillet, le président nous parlait du danger communiste qui menaçait de l'intérieur les États-Unis. Aujourd'hui, il nous parle d'élections qui ont été grandement manipulées par la Chine, mais également avec la complicité de forces de l'intérieur. L'objectif est très clair, semer le doute sur le processus électoral et donc préparer une contestation de la part de l'administration de résultats qui devraient leur être défavorable, et cela afin de se maintenir au pouvoir. Depuis plus d'un an, nous assistons à des attaques incessantes contre la démocratie américaine, contre ses contre-pouvoirs. Je crains que nous soyons dans une forme de processus de coup d'État, entre guillemets, qui est pour objectif de garder le contrôle du pouvoir. Et en parallèle de tout cela, voyons les choses telles qu'elles sont. Un nouveau palier a été franchi concernant la presse, le président américain ayant demandé que l'on retire leur licence à de grands médias nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
Des propos recueilli par Emmanuel Klotz. Et pas encore de réaction chinoise aux accusations de Donald Trump. Son homologue Xi Jinping est lui à Shanghai où il assiste à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle. Il s'y est exprimé il y a quelques heures, c'est d'ailleurs une première, ce qui montre à quel point Pékin essaie de peser dans ce secteur face justement aux États-Unis. Le développement de l'IA ne doit pas être le fait d'un seul pays, mais une symphonie de coopération internationale, a dit le président chinois. Macky Sall attendu à Dakar aujourd'hui, l'ancien président sénégalais ne va d'ailleurs pas s'y attarder, quelques heures seulement pour rencontrer son successeur Bassirou Diomaye Faye et tenter d'obtenir son soutien à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. C'est la première fois que Macky Sall revient au Sénégal depuis qu'il a quitté le pouvoir en avril 2024. 14 accords de coopération signés hier à Rabat en marge de la visite du chef de gouvernement français Sébastien Lecornu et de plusieurs de ses ministres. Ils ont participé à une réunion de haut niveau entre les deux pays, l'occasion aussi de faire un point d'étape avant la visite en France du roi Mohamed VI prévue normalement à l'automne. Les gouvernements français et allemands, eux, se retrouvent aujourd'hui en Allemagne dans un château près de Cologne pour un conseil des ministres commun. C'est le dernier d'Emmanuel Macron qui quittera le pouvoir l'an prochain. Avec le chancelier Olaf Scholz, ils vont tenter de prouver que le moteur franco-allemand fonctionne encore malgré, c'est vrai, quelques ratés ces dernières semaines. Les deux hommes ont quand même dîné ensemble dès hier soir. Correspondance depuis Berlin de Pascal Thibault.
Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment qui est celui d'un réveil stratégique européen.
Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
Réveil stratégique européen, réflexe franco-allemand ou encore rebondir avec des projets concrets après l'enterrement douloureux pour les deux pays du système de combat aérien du futur SCAF, Emmanuel Macron et Friedrich Merz veulent montrer pour ce dernier conseil des ministres franco-allemands du président français que Paris et Berlin peuvent encore trouver des convergences sur la sécurité notamment avec la dissuasion nucléaire avancée qui doit se concrétiser dès cet automne. Plus d'Europe en matière de défense, de spatiale, de compétitivité, un accord sur le financement pluriannuel de l'Union européenne pour les prochaines années figure à l'ordre du jour. Emmanuel Macron veut dans sa dernière ligne droite montrer qu'il peut encore porter des projets. Berlin, qui s'inquiète d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle, veut faire avancer différents dossiers avant le printemps 2027. Dans une tribune, le président du groupe d'amitié France-Allemagne au Bundestag, Roland Theiss, estime que ce conseil des ministres bilatéral peut être une étape décisive pour ne pas céder au fatalisme, mais mettre en avant une responsabilité partagée pour l'Europe. L'accent mis sur la société civile lors de la rencontre est aussi un moyen peut-être de la renforcer si sur le plan politique, le franco-allemand était mis à mal. Pascal Thibault, Berlin RFI.
RFI 5h09 à Yaoundé, c'est la faute à la fraude. Voilà comment l'ambassade de France au Cameroun a justifié hier lors d'une conférence de presse le durcissement des modalités financières pour obtenir un visa. Des fraudes beaucoup plus nombreuses dans les dossiers présentés à Campus France par les étudiants camerounais qui veulent étudier dans les écoles privées françaises. Conséquence, ils doivent désormais apporter la preuve d'un paiement intégral de leur scolarité ou au moins montrer qu'ils sont en capacité de payer. Sinon, pas de visa à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
La fraude est un vrai sujet, explique l'ambassade de France. Muriel Piquet-Viau, conseillère de coopération et d'action culturelle, décrit les stratégies diverses utilisées dans les dossiers d'étudiants camerounais admis dans des écoles privées en France.
La fraude, elle peut être diverse. Ça peut être un papier d'identité qui n'est pas le bon. Ça peut être une attestation comme quoi vous avez de l'argent bloqué. Ça vient pas d'une banque.
Les autorités consulaires françaises disent avoir relevé leur niveau de vigilance au regard de la récurrence de ces irrégularités.
Il y a énormément de possibilités de frauder. Donc on a un service maintenant de fraude qui est un service très important et qui vérifie chaque pièce.
Qu'adviendra-t-il des étudiants qui avaient déjà payé des acomptes en France? Réponse de la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Cameroun.
Ça dépend bien évidemment des établissements dans lesquels l'argent a été versé. Là, il s'agit de bloquer une somme d'argent dans un compte. Quand le visa est accordé et l'enfant est accepté, cet argent est débloqué.
Le Cameroun est jusqu'ici le seul pays africain à se voir imposer de nouvelles règles pour la mobilité de ses étudiants, une décision que dénoncent de nombreuses familles. Emmanuel Juntap, Yaoundé, RFI.
Et mardi, des dizaines de personnes avaient dénoncé ce changement en manifestant devant l'ambassade à Yaoundé. On part dans le sud de la France où se déroule en ce moment le festival Convivencia. C'est jusqu'à lundi, un festival de musique itinérant avec sa péniche qui débarque dans des villages le long du canal du Midi. Et pour cette 30e édition, on nous fait de la concurrence. Alors pas tant sur le plan musical, ça chante mieux que chez nous, croyez-moi, mais sur le plan radiophonique avec Radio Convivencia. Aux manettes, ou plutôt au micro, des jeunes de la région venus de structures locales, des centres de loisirs, des maisons de quartier ou encore des foyers pour enfants. Léa Boutin-Rivière a assisté à l'une de leurs émissions reportage.
Sur Radio Convivencia, pas de présentateur professionnel. Ce soir, l'émission est animée par les jeunes du foyer pour enfants de la région. Tous les âges sont représentés, de 7 à 16 ans.
Bonjour à tous et à toutes. Au programme de notre émission...
Pour ces jeunes qui font leur premier pas derrière un micro, cet atelier est une vraie fierté, même si ce n'est pas si facile. Nolan a 14 ans.
Je suis content parce que j'avais le stress, mais j'ai réussi à surmonter mon stress. Mais j'aime pas trop parler en public parce que j'ai peur de pas y arriver ou de bégayer. Et ça, j'aime pas trop.
Un vrai défi donc. Heureusement, pour apprendre à se dépasser, les jeunes sont accompagnés.
Imaginons qu'on ait déjà dépassé le quart d'heure, les 20 minutes, et qu'il vous reste des questions. Je vais vous faire ce signe-là.
Toute la journée, ce petit groupe d'une dizaine d'enfants a pu compter sur les conseils avisés de Mario Bompard, animateur radio de profession.
L'idée, c'est quand même que les jeunes s'éclatent. Il y a à la fois donc une partie de l'atelier qui est vraiment en fait appréhender la radio. Simplement comment parler dans un micro, comment bien s'exprimer. Mais au-delà de la radio, c'est comment ils vont s'ouvrir, comment le soir ils vont se coucher avec des nouvelles images dans la tête et une ouverture d'esprit un peu plus large.
Résultat, un peu plus d'une heure d'émission avec pas moins de 6 invités. Et surtout, mission accomplie, les jeunes repartent tous avec le sourire avant de, pourquoi pas, retenter l'expérience l'an prochain.
Un reportage de Léa Boutin-Rivière. Et puis 4 900 000 euros adjugés vendus chez Sotheby's pour un maillot de football, mais pas n'importe lequel, celui porté par Pelé en finale de la Coupe du Monde masculine de football de 1958, remporté par le Brésil. Le Brésil, je le rappelle, qui ne sera pas en finale de cette édition dimanche, ce sera Argentine-Espagne. On suivra ça évidemment sur RFI. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on va rejoindre notre correspondante en Lituanie. Elle va nous parler de l'isthme de Courland, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, partagé entre deux pays, la Lituanie donc, et la Russie. Et on verra que ce n'est pas facile de coopérer, ça n'aide pas à la préservation du site. On va suivre aussi notre invité culture. Et puis, on va parler à nouveau des problèmes de fertilité dans le Conseil Santé du jour. Mais d'abord, on part en Corée du Sud, qui pense avoir trouvé la solution pour accompagner les seniors isolés, des poupées dotées d'intelligence artificielle. C'est proposé par les services sociaux de quartier. Une façon, nous dit-on, de lutter contre les troubles psychiques qui peuvent être liés à la solitude, comme la dépression et même la maladie d'Alzheimer. Ces poupées, elles parlent, elles encouragent à sortir marcher, à jouer, et elles accompagnent les seniors dans leur quotidien. Reportage de Célio Fioretti.
Banlieue sud de Séoul, dans son petit appartement d'un complexe résidentiel, Han Sang-gik, 93 ans, nous reçoit, charentaise au pied. Monsieur Han, originaire de Corée du Nord, vit seul à Séoul où il a refait sa vie. Mais aujourd'hui, ses enfants, trop occupés à travailler, ne peuvent pas venir le voir régulièrement. Assis sur son vieux canapé en cuir, il nous présente celle qui partage sa vie, la poupée Chulongi. Une petite poupée à l'apparence d'une jeune fille aux grands yeux sortis d'un dessin animé, couette brune et salopette rouge.
Avant, je m'ennuyais, je n'avais personne à qui parler. Mais depuis qu'elle est là, je la pose sur une chaise et quand nous parlons, j'ai l'impression qu'elle prend soin de moi, qu'elle pense à moi. Alors je me dis que moi aussi je dois prendre soin d'elle. Nous partageons notre quotidien ensemble, comme des compagnons de route. Rappelle-moi, quand est-ce que je dois prendre mes médicaments ?
tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Bien, vous n'avez qu'à porter plainte.
Et sinon changer. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Choro neko yoro Guru doya tu Sibi jamano Sama yore watiri Afasunaru goro Hey ah Choro bagna jakar Bumana andi sako cheb Ak diulin sikarga Legi sama goro taka tu say Dole posa yonda osile Bay choro nena ken mai tulo jabar sidara Kuro de wexna khat kadu tag moko taxede sa yunu beug tak sey bu deug mute Mela sona da Vita cola voglio Cola net coffee Samba goro choro yoro Imamia cufa Vita cola voglio Cola net coffee Samba goro choro yoro Imamia cufa We'll be right back.
Yaimano,
Yaimano,
Trace,
Trace,
marche arrière,
le gouffre.
This is for my French Congolese, yeah, my US Congolese.